J'avais envie de rencontrer très vite le metteur en scène, ce que j'ai fait. Je suis allé à Lisbonne et dès que j'ai rencontré Jean César, j'ai eu envie de travailler avec lui. Voilà comment ça s'est fait.
Moi, c'est un peu la même histoire que Hugues. Moi, j'ai joué une pièce de Beckett à Paris. Une des actrices avait été engagée pour faire la femme de Jean-Pierre Léaud dans le film. Et je crois que Jean-Pierre n'a pas pu faire le film par des engagements. Et cette actrice a proposé au producteur qui cherchait un acteur pour remplacer Jean-Pierre. Et elle a dit, pourquoi tu prends pas Pierre ? Alors, ce producteur a appelé Montero, et Montero a dit, c'est une très très bonne idée. Alors, je suis venu à Lisbonne, j'ai rencontré Montero, avec Hugues d'ailleurs, dans un petit café à côté du tournage, et je dois dire que, sans parler, les choses se sont faites au-delà de tout. Je suis rentré dans le film, vraiment en lisant le scénario, que j'ai trouvé vraiment superbe. J'étais un peu inquiet par les énormes textes qu'il fallait apprendre, surtout qu'on tournait dans 3 jours. Et moi, j'ai une mémoire, je ne dirais pas paresseuse, mais bon, une mémoire qui doit quand même digérer ce qu'elle apprend. Et j'étais un peu inquiet, mais bon, je pense que Montero, par son intelligence, a compris qu'on ne file pas un texte avant de tourner à un acteur, sauf pour le lire. Et je pense qu'il a un petit peu volontairement déréglé le tournage pour nous permettre d'apprendre les textes. Parce qu'il sait très bien que quand un acteur n'est pas libéré, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de travail, et même lui-même n'a pas ce qu'on pourrait avoir par une totale maîtrise. Alors c'est jouer sur l'équilibre, le déséquilibre, il y a des fois que c'est très très bien, mais pour ce genre de texte important, puisque les mots sont aussi importants que l'image, que la musique, et là on redonne un peu à la littérature. À travers l'incarnation des acteurs, on rend au verbe sa lumière. Et je pense que ce film, au niveau du scénario, au niveau des dialogues et tout ça, c'est très important d'écouter. Au cinéma, on regarde beaucoup, on n'écoute plus beaucoup. On se laisse porter par... Là, d'un seul coup, j'ai été séduit par une revalorisation du verbe, du mot, de la résonance que peut avoir une scène... quand elle est écrite magnifiquement. Et je crois que, parce que j'ai su qu'il avait écrit en français, j'ai été très étonné comment il avait pu écrire un si beau scénario en français, dans une langue qu'il a étudiée et qu'il a appris et qu'il a divinement bien assimilé.
Kessler, vous dites que vous avez trouvé dans votre boîte aux lettres le scénario. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y avait un scénario. Pour ceux qui croient que Montero... ne travaille pas ou ne construit pas les choses. On pourrait revenir sur ce scénario, puisqu'il y a quand même dans le film des textes de Strindberg, d'André Breton, d'Aragon, des fragments entiers de textes, notamment d'Inferno, d'introduction à Inferno. Donc, il vous l'a donné sous forme de scénario, ou bien vous connaissiez, il vous a proposé de lire les textes en question.
Non, c'était un scénario très établi, et je veux dire... Et après mon voyage au Portugal, après que je l'ai rencontré, je suis retourné en France et je me suis enfermé dans une maison en Bretagne et j'ai appris pendant 3 semaines quasiment tout le film. Et bon, heureusement, l'expérience du théâtre m'a quand même beaucoup apporté parce que j'avais 80 pages de texte en gros à apprendre qui ont été modifiées sans cesse. Mais non, c'était un scénario très structuré, je veux dire, voilà, avec des monologues très important, comme c'est très rare au cinéma d'en dire, je veux dire. Et bon, je suis donc retourné au Portugal et le tournage a commencé. En fait, tu es arrivé tout de suite, Pierre, sur les premiers jours. Et il y a eu 3 jours où Juan était dans un état d'angoisse très fort. Il n'arrivait pas à commencer le film dans le théâtre. Et il y a une très forte tension qui s'est établie pendant 3 jours. Et parce qu'il cherchait Juan, c'est quelqu'un qui travaille à l'inspiration, qui cherche le moment de tourner. Le début du film a été assez éprouvant pour les nerfs de tous. Mais moi, je comprends totalement. Je travaille beaucoup avec des gens, des artistes qui ont un problème de création, de trouver le moment favorable. Je trouve ça bien parce que à la différence de beaucoup de télévision ou de films qu'on tourne, j'avais l'impression d'être à la naissance vraiment d'un...
La création d'un
homme, oui. Moi, j'étais très touché par qu'un metteur en scène, d'habitude, c'est plutôt les comédiens qui sont angoissés à l'idée de commencer quelque chose. Mais là, je veux dire, de voir justement Juan qui cherchait, qui tâtonnait, j'étais assez troublé. Donc j'étais en même temps très, très patient sans cesse et pendant tout le film. Et le fait que Pierre soit là... a apporté aussi beaucoup sur le tournage.
80 pages de texte, c'est beaucoup par rapport à un scénario habituel. C'est surtout pour vous,
Hugues. Oui, c'est beaucoup, mais je veux dire, à partir du moment où, à la différence de Pierre qui est arrivé sur le film, qui a été projeté sur le film, moi j'avais eu le texte très longtemps à l'avance. Comme je vous le disais, je me suis préparé. Et... à partir du moment où le texte est très beau, je dirais, on n'a pas de difficulté. On a plutôt du mal en tant qu'acteur quand le texte est difficile parce que sans intérêt.
Mais le film a des fragments ou il est conçu avec des choses totalement différentes. Il y a des choses qui paraissent comme ça très écrites, très structurées, et des choses qui paraissent très libres. Attention, quand je dis très libre, par exemple, tout ce qui se passe autour de la table. Ou ce qui se passe dans la pièce où il y a le piano, il y a une liberté du dire et de la... Alors, on dirait presque que c'est de l'improvisation. Vous dites qu'il change beaucoup de choses au tournage. Alors, j'aimerais savoir, il y a eu des choses improvisées, comment il a travaillé ?
Je pense qu'il a évité de faire une illustration du texte, de l'ébauche de pièce qu'est en train de lire cet auteur à Jean de Dieu et à la petite Ariane, qui sont c'est une préparation à un spectacle. Il y a l'Inferno et ils sont déjà, comme les gens du spectacle, déjà en préparation d'autres. Donc dans le scénario original, dans le scénario primitif, originel, tout ce qui est dit par Paul est une image. On voyait. C'était, illustré par l'image. C'était mis en scène cinématographiquement. Et je pense que Juan César a intensifié toute la partie théâtre dans le cinéma et aussi trouvant inutile d'illustrer ses écrits et de trouver beaucoup mieux de faire une lecture de le lire que de le mettre en scène par des images. C'est-à-dire on retourne aussi au discours, on donne une... et puis c'était surtout... Je crois que ça a déséquilibré beaucoup de gens, la production. Parce qu'effectivement, c'est pas de lire des textes, de lire un texte des pages à la main, c'est pas... mais en même temps, c'était rentré dans une... quand vous voyez des lectures d'acteurs, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai pensé qu'il allait alterner par des images, quand il parle d'Ariane avec son âne, et qu'on verrait des flashs de Jean de Dieu, Ariane, lui dans la voiture, Enrique est dans la voiture. Et en définitive, on est resté très dans une rigueur très livresque, et très comme un peu le théâtre brechtien, très distancé. Il y a une distance, voilà. Si on peut parler d'une distance théâtrale, là, on peut parler d'une distance cinématographique. Parce que et puis c'était bien. C'est aussi, je crois que ça lui a permis aussi de faire des plans séquences et de pas toujours couper, faire un cinéma qu'on connaît, dont on est abreuvé, c'est-à-dire plan contre plan, plan moyen, et on emmène les gens dans une histoire. Là, il fallait tenir les gens, pas du tout emmener les gens dans. Il fallait les emmener par rapport à la magie du verbe, à la mise en scène aussi, qui était une mise en scène, l'œil de la caméra qui observe. Je crois qu'on était tous plus ou moins dans un mystère. Et le mystère, il faut le laisser se faire. Et c'est difficile à expliquer un mystère, sauf avec le temps. Donc si je veux savoir pourquoi Montero n'a pas filmé tout le discours réaliste en le mettant en scène au niveau du cinéma, je crois qu'il a gardé une très grande force et qu'il a, il a réussi à tenir ce que tout le monde doutait un petit peu, surtout par rapport à la production, qui pensait faire une grande promenade en ville, illustrer tout. Et là, il nous aurait fallu, je pense... Et puis je crois que Montero, il ne veut pas s'ennuyer au cinéma, parce que s'il s'ennuie, comme il est très très bon public, et dans la vie, et aussi au cinéma, et au niveau de la littérature, je crois qu'il n'aurait pas... ça l'aurait ennuyé. Et je crois que c'est quelqu'un qui, dès qu'il s'ennuie, c'est qu'il fait du mauvais cinéma. Donc il est toujours en dualité avec ou une production qui lui impose, parce que c'est écrit dans le scénario, et que il est difficile pour les producteurs de voir un scénario qui change, qui évolue. Mais bon, là, il a eu la chance d'avoir des producteurs intelligents. Et branchés. Et je pense que les producteurs... Il n'y a pas eu de dualité, en tout cas. C'est peut-être cette grande liberté qui, surtout quand on a fait des grandes choses, de savoir si ça va continuer. Et je crois que Montero était une charnière de son œuvre où ça allait s'opérer ou pas. Et je crois que...
Ce que je trouve bien dans le film, c'est que je m'y sens parfaitement libre. C'est-à-dire que c'est un cinéma dans lequel il y a quelque chose de ludique et on est complice ou pas de ça. Et ces grandes plages comme ça, de ce qui paraît improvisé et autre, moi je trouve que c'est un respect extraordinaire du public. Parce que le public, il est convié à y participer et je trouve ça passionnant.
S'il y a une improvisation, elle n'est pas dans le scénario, dans le dialogue et tout ça. L'inspiration est là, elle est uniquement dans la mise en forme, dans la structure dans laquelle il filme.
Moi, je trouve qu'il arrive à...
Mais ces longs plans séquences permettent au cinéma de respirer, de sentir la respiration du cinéma, de la caméra, des acteurs, et de retenir l'espace, de retenir les... Et c'est ça aussi qui c'est filmer l'éternel présent, le temps. Et puis ça donne aussi aux gens la liberté. Un long plan séquence, on voit ce qu'on veut, on peut partir en voyage, on peut revenir, on peut avec... Non, c'est l'imagination. Le cinéma doit donner, faire prendre conscience au spectateur, faire travailler son imagination, et pas seulement rester fixé à des théories de plan, de contre-plan, de cinéma institutionnel, mais justement, par une forme de langage, retrouver la communication de la personne qui s'ouvre et qui parle à... Elle retrouve en définitive son désir.
Ce mouvement de la vie, ça qui
jaillit. Oui, je dirais qu'on est comme devant des peintures, avec les plans séquences de Montero. Il donne à voir et surtout à prendre le temps de voir un plan et ce qui s'y raconte. Je veux dire, on est à un moment où il y a une prolifération d'images au niveau du rythme, je veux dire, d'une espèce d'agression par le bruit, par le... Si on regardait la télévision, je veux dire, sur certaines chaînes, c'est une véritable agression, je veux dire. Et ce qui est fort aussi dans le cinéma de Montero, c'est qu'il donne le temps de découvrir les plans et il donne aussi il donne à entendre.
Bien. On donne à voir et à entendre.
Oui.
On n'est pas dans l'immédiateté. On est dans un sens beaucoup plus profonde que dans l'immédiateté. On est dans le contraire de la télévision, en tout cas, me semble-t-il.
Oui, oui.
Vous vous êtes amusé pendant le tournage.
Oui.
Vous parlez d'une tension extrême, mais vous vous êtes amusé au sens du plaisir de jouer, de vous être retrouvé là à jouer ce texte et puis ces personnages, parce qu'il y a des personnages, on n'est pas dans la psychologie, mais il y a des personnages.
Oui, il y avait un réel plaisir. Il y avait un réel plaisir parce qu'en général, on répétait beaucoup et on savait au moment où c'était prêt. Donc il y avait eu une excitation de tourner et de réussir et d'arriver en définitive à ce qu'on désirait. Non, très peu. Je pense qu'on a une grande préparation de soi-même. Je pense avant et après, avant le tournage ou la veille, on pense parce que c'est, rien n'est fixé. Donc, on arrive et puis on fait quand même avec Montero un travail assez de liberté aussi. Hein. Si vous lui proposez rien, c'est lui qui va vous dire bon, je veux faire ça, ça. On cherche et on trouve. Avant de placer la caméra, je ne dirais pas qu'il fait un cadre, mais on est en situation donnée, on est dans une situation. Et la répétition amène le désir. Et quand on a ce désir, on oublie le texte, on devient bien, les choses glissent. Et puis, justement, ce temps devient réel. On fait plus du cinéma, puisque c'est le cinéma, c'est-à-dire la vie. On est les témoins d'un événement, les témoins d'une histoire. Il y a l'oubli. Et l'oubli de la vie donne naissance justement à la fiction, donne une vérité à ce qu'on est en train d'incarner.
Et en tant qu'acteur, comme il joue plusieurs rôles dans le film et qu'on joue aussi des doubles de lui, il a une telle vérité dans son œil, je veux dire que le terme de jouer, ce sont des instruments qui s'accordent les uns avec les autres. Et, il nous met aussi dans des cadres qui sont tellement beaux. Je veux dire, oui, c'est un film qui est fait quasiment sans un projecteur.
Il n'y a pas de projecteur. Parce que Montero exige la lumière. Enfin, il n'exige pas, mais il aime la lumière comme ça, sans rien. C'est pour ça que des fois on tournait dans... C'était très obscur le théâtre. Hein.
Oui.
Mais bon, par la magie de l'opérateur, les choses, on arrivait à...
C'est d'apprendre qu'il n'y a pas de lumière artificielle.
Aucune.
Il a choisi les lieux, la lumière.
Lumière naturelle.
C'est comme les frères Lumière, donc il va prendre la bonne lumière.
C'est une pellicule très poussée, qui travaille. Et puis... Comme partenaire, je veux dire, c'était très très agréable de jouer avec lui. Je veux dire,
oui, parce qu'il donne beaucoup. Si on l'aime, il peut vous faire traverser les Andes. Il a quand même des rapports magiques avec chacun, parce qu'il est quand même assez. Il a un œil. Son œil est très perçant, très. Et en même temps, il est en quête de beaucoup de demandes. Parce que il a peur qu'on ne l'aime pas. Il a tellement certainement été, je ne dirais pas martyrisé, mais une grande souffrance dans son adolescence et dans son âge de jeune homme. Il a dû souffrir des autres, beaucoup. Et aussi de lui, par ses rapports intimes avec les gens qu'il aime, dans ses rapports amoureux. Mais professionnellement, il n'aime pas la bêtise, mais quand il aime quelqu'un, il va jusqu'au bout. Mais comme il sait aussi qu'il est dans un monde de scorpions et de serpents, il arrive à un âge où il est capable de se défendre maintenant. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a vécu toujours dans la pauvreté. Et pour la première fois, il commence à avoir une maison, à désirer à nouveau avoir un enfant et de continuer son œuvre. Alors que souvent, à son âge, beaucoup de gens veulent se suicider parce que leur vie s'est arrêtée professionnellement.
Son film est pour moi, c'est un chant d'amour, c'est un cri d'amour et c'est évident. C'est un cri d'amour qui commence par Strindberg. Alors j'ai vu que la petite fille de Strindberg a travaillé sur le film. Il a choisi. Vous savez pas du tout comment il est venu à ces textes de Strindberg, parce que c'est quand même Strindberg le point de départ.
Inspiré par les rencontres, il est alchimiste, hein. Dans ses excès, dans sa passion, c'est quelqu'un qui sait reconnaître les signes et les codes, qui n'a pas perdu ce que nous on a, ce que souvent les gens ont oublié de voir, ne savent plus voir.
Je trouve très sage.
qui repère. C'est un peu comme les surréalistes, un petit peu, tu vois. C'est les surréalistes qui avaient un autre état d'esprit. C'est chaque chose a un signe qui conduit vers une vérité et un code ou une porte qui s'ouvre. Et je pense que toute sa vie a été un petit peu ça. C'est pour ça que souvent on est très perturbé. Parce que les gens ne vous suivent plus, ou les gens vous ramènent à coups d'électrochoc, ou les gens vous enferment, ou on dit que vous êtes en dépression, ou que vous buvez trop. C'est-à-dire il y a une gestation interne, il y a une possession. C'est comme les convulsions, les premières contractions. Hein? Et je crois que Montero est un homme qui n'est heureux que quand il écrit, quand il est bien entouré. Quand il est avec des gens créateurs avec qui on prépare le lendemain, on sait très bien là où on vit, ce qui n'est pas tendre avec nous, hein, puisqu'on est toujours taxé de tout. Donc c'est quelqu'un qui a, comme nous tous, qui avons un peu comme, comment s'appelle ce gars de Lyon, la marionnette de Lyon, Guignol, qui donnons des coups de bâton, comme on peut. Lui, il les donne avec ses films, et c'est très bien. C'est pour ça que la moitié de la presse, enfin les gens qui font les critiques, qui analysent, disons, les œuvres de nos artistes, c'est de dire aux gens c'est bien, c'est pas bien, là vous pourriez trouver ce que vous désirez savoir suivant la tendance des journaux, quoi.
Le travail de la critique, c'est dire un peu, enfin, moi à mon avis c'est pas d'analyser, c'est d'aimer ou de pas aimer, mais aujourd'hui d'informer. Voilà, d'informer, je sais pas, si le point de vue critique c'est quand même un engagement. Moi je suis pas sûre que l'information ça soit forcément
je vois pas. Quand on parle d'un film, c'est pour que je me renseigne, qu'est-ce que je vais aller voir. Et effectivement que le fait d'ouvrir ou de lire une critique ou un papier sur un film me donne envie ou me donne pas envie, ou le sujet m'intéresse ou le sujet ne m'intéresse pas. Voilà. Et il y a toujours, c'est toujours, il y a aussi la presse parlée. Les gens vous disent, ah, moi j'ai été voir Full Python par exemple. Hein? Parce que quelqu'un m'a dit, tu vas voir. Effectivement, que par la presse parlée. Et je pense que la presse, c'est-elle importante maintenant pour les films ? Oui, toujours.
Je trouve que Montero est quelqu'un d'assez sage, un peu. Il a une espèce de sagesse, pas de Fabliau, mais l'histoire de l'âne, là, ça m'a paru quelque chose de très sage, en fait. Et je trouve que dans la folie du monde aujourd'hui, Montero est très sage. Et je trouve que de partir au pôle Nord avec une belle fille, alors qu'Hitler arrive sur la tour Eiffel, après tout, c'est un point de vue qui me semble assez sage, mais qui est inquiétant, assez terrifiant. Est-ce que... Il vous en a un peu parlé de ça. Du pôle Nord, d'abord, est-ce qu'il vous a parlé du pôle Nord ou pas ? En dehors de ce qui était écrit.
Non, mais non. Je sais pas, on peut analyser. Je sais pas, moi je suis pas. Je peux pas analyser cette. Je pense qu'il a été souvent au pôle Nord, Montero. Oui, il a été dans les hautes solitudes. Hein, et c'est ça, le pôle Nord. Et que quelquefois, c'est dans les hautes solitudes où on se sauve. Quand on ne peut pas. Quand il y a trop d'hostilité extérieure contre vous parce que vous n'obéissez pas à la norme, parce que vous êtes au-delà des lois, malgré et vous êtes obligé de vous imposer ces lois. Sans ça, c'est pas au pôle Nord qu'on vous met là, c'est à la glacière, à l'asile. Hein, et je pense que Montero, qui a fait peur à beaucoup de gens, on a déjà essayé de le supprimer mentalement par la camisole physique, parce que c'est un homme qui aime la beauté, qui aime la tendresse, qui aime le mystère de la vie, les gens qui grandissent, qui bougent, il aime les femmes, il aime la beauté, il aime les filles, il aime le bon vin, il aime les films, il aime la vie. Et tout ce qu'on voit dehors, c'est une course au pognon. Et si tu n'es pas rentable ou si tu ne travailles pas. Et dans cette profession, il faut être rentable. Sans ça, vous êtes enterré très vite.
Mais il y a, me semble-t-il, une peur de sa part du monde extérieur. Alors ça se traduit par des tas de choses. Le fait que le film se termine quand même par cette surimpression, l'arrivée des hordes hitlériennes et sa fuite comme ça au pôle Nord, c'est quand même révélateur, à mon avis, d'une grande peur. Vous avez senti ça ?
Dire que j'avais pas vu la fin. C'est des images en surimpression. Je veux dire, mais il y a quand même toute une scène sur les skins dans la boîte de nuit. Je veux dire, il met le public en garde en fait sur ce qui se passe.
Et ça m'a frappé, c'est que j'ai regardé la presse assez attentivement. Il m'a semblé, j'ai pas encore lu tout, mais il m'a semblé que nulle part cela est dit. Cette mise en garde contre, grosso modo, un danger fasciste. Et c'est assez étonnant parce que c'est assez clair dans une enquête.
Un danger fasciste inconsciemment en Europe. Vous n'avez qu'à regarder en Amérique du Sud. Quelles sont la carrière en Amérique du Sud, à part faire des affaires? Rentrer dans les ordres, porter la robe ou rentrer à l'armée? Donc, ça n'intéresse plus beaucoup les hommes de porter la robe maintenant. Donc, on fait... ici, pour le chômage, on a recruté 30 000 jeunes flics, c'est tout. Alors, plus ça va aller, maintenant c'est 30 000, demain ce sera 50 000, après ce sera 100 000, va devenir de plus en plus une société, parce que le capital va se défendre contre la misère. On va pas foutre tout le monde au RMI, comme il y en aura de plus en plus. Et comme il y aura plus de misère, plus il y a de la richesse. Ah, même si... Donc, tout ça est un danger, effectivement, pour faire... regardez en France... toutes ces tribus de jeunes désœuvrés qui ont attaqué à coups de cocktail Molotov à Lille les autobus qui transportent les travailleurs. Ce sont des actes aussi qui sont des... Donc il va y avoir une réaction. Moralité, vous allez avoir des quartiers entiers sous haute surveillance. Pourquoi faire ? On va faire des prisons, on va donner un peu 200 balles de plus aux érémistes... c'est pas une solution. Donc c'est là où le danger d'une dictature, même si elle n'est pas visible, elle existe.
Il y a une phrase terrifiante dans la boîte de nuit. Quand Montero vous dit, Hugues, c'est une vieille mascarade, à propos des skinheads, c'est une vieille mascarade et les investigateurs sont devenus des démocrates. Et ça, c'est assez terrifiant parce que je crois que dans le film, cette dimension-là est là.
C'est comme le film de Pasolini, Porcherie, le discours entre la partie milanaise, qui sont les anciens gros industriels fascistes, qui travaillaient avec Mussolini, qui ont participé à 40 ans de fascisme en Italie, et qui sont démocrates chrétiens, avec les fortunes de toute façon nationales du pays qui gèrent, qui continuent à gérer. Donc, vous voyez, tout ça est une mascarade. De Gaulle, pourquoi De Gaulle a pris Papon ? Parce qu'il était irremplaçable auprès de certaines choses, même s'il s'était mouillé dans des histoires de merde. Donc, oui, mais c'est ça la naissance du fascisme et du nazisme. Ça vient de petites choses comme ça. Parce qu'il fait des jaloux, parce qu'il est insaisissable, parce qu'on ne peut pas le contrôler, parce que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas acheter. C'est quelqu'un qui a très bien conscience qu'il a commencé une œuvre importante, même si on aime plus ou moins ce film que d'autres, etc., etc. Je pense que ce n'est pas son dernier film, et que ce film, pour lui, est une charnière importante dans la continuité de son œuvre. C'est un peu comme quand Strindberg... a abandonné toute littérature pour se consacrer à la chimie, parce qu'il avait envie de devenir alchimiste, même s'il n'en était pas conscient à l'époque, pour son œuvre à venir, qui a été très importante, le deuxième. Voilà. Ouais. Voilà, après la crise d'Inferno. Ouais. Et non, moi j'ai beaucoup confiance parce que il est fait chier parce que il a pris le pouvoir. C'est à lui d'en faire. Non, enfin en étant ce qu'il est, il n'arrive pas avec son premier film, il arrive quand même avec une continuité. Il n'est pas mort alors qu'on le croyait foutu. On croit toujours les gens foutus quand on ne les comprend pas. Alors, on leur fait des mythologies toujours explosées pour les dévaloriser ou en rire, ou alors parler pour parce que c'est la mode de parler et puis
vous pourriez parler un peu des personnages, comment vous les avez sentis vivre et naître.
Moi personnellement, je fais pas de psychologie. Je veux dire, quand je joue un rôle,
parce qu'il y a aucune psychologie dans le film, et c'est très bien parce que, à mon avis, le cinéma, ça n'a rien à voir avec la psychologie, l'art non plus. Mais les personnages, comment ils naissent et comment ils vivent. Physique quand même, c'est pas que des idées, c'est pas que
le texte. Déjà, un personnage, c'est défini par ce qu'il dit, par le son de ce qu'il dit. Et on définit un personnage déjà par les premiers dialogues rien que d'entendre, on voit si on reconnaît à la musique, à la musicalité du texte, de sa voix, de son aspect, déjà un petit peu le chemin, le parcours que ce personnage va révéler, va s'incarner par les sensations, les émotions au public qui le découvre.
Parce que le premier mot du film, il est dans le texte de Strindberg, c'est que le mouvement soit. Et il y a quand même tout un travail un peu de démiurge, comme ça, qui est fait par Montero, qui est de faire naître justement le mouvement, et le mouvement de la vie chez les êtres, quoi. Comme ça.
On peut se figer en soi, comme on peut se mettre en mouvement sans bouger. C'est-à-dire, si je me bloque intérieurement, je ne suis pas en mouvement. Mais même si je ne bouge pas et que je mets en branle en moi tout un mouvement, que j'ai réussi à sentir mon corps, que je le mêle à mon sang, que je ressens la symphonie de mon corps, même si je suis le seul à l'entendre, à l'apercevoir, et que je la mêle au discours que je dois faire, c'est aussi ça le mouvement. Le mouvement emmène au niveau du son et le geste qui est le prolongement qui accompagne. Et quand il dit du mouvement, c'est-à-dire que même si la caméra est immobile, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est l'horloge intérieure, c'est le mouvement intérieur ou même si c'est fixe, c'est comme un tableau qui vous parle. Dans lequel un écran, ça se traverse. On ne reste pas seulement la tête contre le mur à l'écran. C'est ouvrir l'espace. Le mouvement, c'est ouvrir l'espace. C'est être dans l'espace.
Parce que il y a le mouvement à l'intérieur du cadre, du champ, où les personnages bougent ou ne bougent pas. Et puis, il y a le mouvement de la voix aussi. Alors, vous êtes deux acteurs avec une voix très forte, très vibrante, parce que tous les deux, vous venez du théâtre quand même. Beaucoup. Et la voix, alors j'aimerais que vous en parliez de ça, parce que quand même, il y a une présence de la voix dans le film. Il y a une présence de tous les sons, mais il y a une présence de la voix. Enfin, votre personnage, il passe énormément par la voix, vous.
Pas seulement, je dirais. Pas seulement par la voix, c'est un tout, la voix, je dirais. La voix, c'est tout le corps, c'est tout ce qu'est un être, la voix, je dirais. C'est pas parce qu'on vient du théâtre, je veux dire, on vient pas particulièrement du théâtre, c'est pas parce c'est comme si un peintre devait totalement expliquer une peinture, il y a une part de mystère dans le fait de jouer, et je crois que Montero nous est réunis, je veux dire, c'est qu'il y avait une alchimie qui se produisait. Moi, je n'arrive même pas à expliquer, je veux dire, à m'expliquer le film complètement. Je dis, j'aime bien cette part de mystère qu'il y a dedans. Je dis, moi, je sais que c'est d'un travail énorme que je fais avant. Bon, ça, ça vient effectivement aussi d'une longue pratique du théâtre, je dirais. Mais comme il y avait énormément de textes et que d'habitude, ce sont des plans très courts, je veux dire, au cinéma en général, il n'y a pas de longues tirades comme chez Montero. Je m'y suis préparé, non pas comme si j'allais faire une représentation, mais d'abord j'ai été seul, comme je disais, dans une maison pendant 3 semaines, avec ce texte uniquement, je veux dire. Et c'est pas le fait de vouloir bien dire un texte, je veux dire, au contraire, je veux dire, il y a beaucoup de retenue dans tout ce qu'on fait, je veux dire, dans ce film. Je veux dire, c'est pour faire passer peut-être juste le au moment où on dit moteur, ce que veut faire oublier ce long travail, je veux dire.
C'est ça le cinéma, c'est le résultat de ce travail qu'on voit sur l'écran. Et effectivement, il y a quelque chose de magique, parce que nous, on n'a pas vu tout le travail.
Les textes sont déjà écrits comme des chants. En plus, ça se passe dans le milieu. Jean de Dieu est un homme de théâtre. Jusque dans sa transpiration, sa respiration. Les hommes de théâtre, on les sent. Ils n'ont pas des voix comme tout le monde. Ils ont des résonateurs. Ils sont des gens plus... Je ne sais pas si vous connaissez des gens de théâtre qui ont des responsabilités, comme le sont par exemple les metteurs en scène, qui ont des troupes, qui sont plus pesants, qui sont des gens profonds. Enfin, dans... Et puis, il y a une chose qui était très importante dans ce film, c'est « Tiens, tu veux me passer le sel, passe-moi le beurre ». Il n'y avait pas de dialogue réaliste. Tout était, déjà, pour un acteur, c'était de ne pas sombrer dans le grandiloquence de textes littéraires, de faire oublier la littérature pour la re-respirer, lui donner l'espace, justement, et le mouvement.
Autour du mot... acteur de théâtre, il y a une connotation quand même qui est péjorative souvent. Je veux dire, et c'est ce que disait Pierre. Moi, le théâtre, je le porte à un tel niveau, je veux dire, ce que je fais depuis 30 ans, je veux dire, avec les metteurs en scène. Je pense à Jacques Lassalle, je pense à Patrice Chéreau, je pense à cette multitude de grands metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. Et justement, de ne pas jamais théâtraliser, même au théâtre, ce qu'on a à faire. Je veux dire, j'ai toujours lutté en tant qu'acteur contre cette manière de jouer par déformation certains acteurs de théâtre. Je veux dire, mais il fallait quand même le porter, ce texte aussi, et bien le faire entendre. Que ce soit Strindberg ou Pasolini, je veux dire, et...
C'est beau le texte de Pasolini sur Strindberg. Hein,
c'est un texte de Pasolini, le texte sur Strindberg.
Oui. Ben oui, c'est l'Inferno de Strindberg.
Oui. Il y a un moment, quand tu parles de Strindberg, tu sais, avec Graziella.
Oui.
Je crois que c'est un texte de Pasolini.
Oui, ça, c'est Pasolini.
C'est ce texte qui t'a filé à la dernière minute.
Voilà. Le problème que j'avais aussi sur le film, c'est que, comme lui, Juan s'est trouvé devant un problème aussi au niveau du texte. Moi, j'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup la finesse de son timbre. Le problème qu'il avait, le pauvre, c'est qu'il avait tellement de textes à dire que, quelquefois, je me mettais en place avec sa doublure. Et qu'au moment où lui se mettait en place pour jouer avec moi, il ne se rappelait plus du tout de son texte. Et c'était difficile. Mais bon, le cinéma, c'est ça aussi, c'est qu'on s'arrange avec des nègres, ce qu'on appelle des nègres, c'est-à-dire des panneaux. Ça l'angoissait aussi, ça, d'avoir de s'être écrit tant de textes et de ne pouvoir le dire, parce que ce n'est pas sa langue aussi, le français. Oui, un grand acteur, je veux dire...
Quand il parle d'espace, quand il parle de mouvement, c'est-à-dire au lieu de se précipiter à vite se débarrasser de son texte, comme par pudeur ou par inconfortabilité souvent, parce que souvent on se demande, on ne vous donne pas les solutions, C'est à vous de trouver des motivations pour arriver à la vérité et pas être là. C'est comme, tu sais, quand j'avais fini le tournage, il est venu me chercher pour faire cette scène. Il me dit, tu viens, tu te mets là. Alors j'ai dit, bon, moi j'avais fini le film et déjà dans ma tête, j'étais c'était parti, hein, comme une fusée qui s'en va. J'avais décompressé et tout. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais bon, pourquoi je viens là? Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, quand je te parle à l'oreille, il était là. On venait de le quitter, il venait de se jeter sur le pont. C'était un autre Henrik qui revient. Tu vois, dans la tête d'un acteur, sans qu'on te, on te donne d'explication, surtout quand tu t'investis complètement dans une chose, tu fais partie d'un des rouages, tu fais partie d'un des éléments alchimiques de l'œuvre. Et tu dois être juste pour pas fausser une scène. C'est important, une séquence. T'as pas le droit de rater ou d'être qu'une tâche dans une scène quand tu n'étais pas prévu.
Moi personnellement, ouais.
Donc il fallait toujours trouver des équilibres, un équilibre et un déséquilibre, parce que on était souvent, on s'équilibre, mais la chose fait qu'on, au moment où on tourne, on n'est plus équilibré. On doit retrouver un équilibre de la tension dans laquelle on va. Comment va s'accomplir cette scène? Car on ne sait jamais comment ça va se passer.
Et oui, je veux dire, moi j'étais d'une extrême concentration et sur le film. Et en plus, j'ai un personnage, je veux dire, qui l'enveloppe aussi, qui est un peu un ange, qui est son ange protecteur, Jean de Dieu. Et je veux dire, j'ai participé beaucoup de mon jeu à une très grande écoute de lui. Je veux dire, je n'ai jamais quitté des yeux ni de Louis. Je veux dire, et il sentait justement cette attention que j'avais, je veux dire, et après j'en ai parlé avec Jacques Lassalle qui a vu le film, a dit vraiment il était très heureux de mon jeu parce que c'est vraiment une question-réponse, mais une grande attention, je veux dire, à tout le corps de l'autre, à tout ce qu'exprime l'autre, je veux dire.
Que Hugues, quand j'ai commencé à travailler avec Juan, j'ai eu la même émotion qu'avec Buñuel, c'est-à-dire quelqu'un rempli d'amour, qui a beaucoup le sens de l'humour, et il veut qu'on l'amuse, il veut pas qu'on l'angoisse. C'est-à-dire, et aussi de le surprendre. Et si on sait qu'on le surprend et qu'on est près de lui, c'est là que le mystère se produit, que le miracle se produit, et que le cinéma existe, tel qu'on l'aime chez Montero.
Moi, c'est que le chemin, le parcours d'un acteur, qui est en fait, qui dure toute la vie, est jalonné de rencontres qui nourrissent un être et un comédien, je dirais. Et par chance, je veux dire, j'ai rencontré Juan Montero comme Romer, comme Tanner, comme Ruiz, et que ce sont des rencontres comme ça qui fait que, je dirais, qui font du bien à l'être, évidemment, qui enrichissent l'acteur que je suis, quoi.
Merci.